C'est des produits qui s'adaptent à votre corps et pas l'inverse. Et avec notre marque, on arrive à donner un peu confiance en elles à nos clientes. Elles se sentent méga belles quand elles se mettent dans la glace et qu'elles sont dans notre lingerie. Bah, en gros, on aura réussi quand même un pari.
Il est en solde en ce moment sur notre site. Et ça, c'est une vraie question que tout entrepreneur doit se poser. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux avoir une petite part d'un très gros gâteau demain? Ou est-ce que tu veux avoir un très gros gâteau pour toi tout seul, mais qui n'a pas beaucoup de valeur?
Tout le monde parle du féminisme, de machin, de trucs. T'es face à quand même 5 personnes extrêmement connues.
T'es sur un plateau télé, en plus, tu vois,
c'est ça. Plateau télé, comment en 2022 vous pouvez mettre un jury si sexiste, si peu ouvert d'esprit et finalement si peu visionnaire?
Pour deux nanas sorties de nulle part, sans réseau, pour le coup qui n'ont pas fait HEC, non mais c'est
c'est noté, ok, tu l'envoies direct. Salut, c'est Théo, je suis le fondateur et CEO de Koudak, l'agence de growth préférée de ton e-commerçant préféré. Mon travail et celui des 50 membres de mon équipe, c'est de craquer les problématiques de croissance de nos clients e-commerce avec de l'ads, de la créa et du conseil en growth. Dans ce podcast, j'élargis ma culture en enregistrant mes discussions avec les plus belles marques e-commerce françaises, en format d'interview ou de table ronde. On a un but, c'est de répondre à une seule question, comment elles ont grossi. Si l'épisode te plaît, oublie pas de mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme de ton choix, parce que ça me demande beaucoup de travail et que je suis chaud si tu peux au moins y passer 5 secondes. Sans plus attendre, j'arrête de t'embêter, je te laisse avec cet épisode, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bruts e-commerce. On est de retour dans notre studio favori avec de nouvelles invitées. Nous recevons les fondatrices de We Are Jolie. Comment vous allez?
Très bien. Très bien. On est ravis d'être là.
Alors, je suis très content de vous avoir aussi parce qu'on a eu un peu l'occasion de discuter et je sais qu'on va avoir un épisode intéressant. J'ai énormément de notes, une bonne trame qu'on va pouvoir suivre et quelques petites anecdotes. C'est assez marrant de commencer l'épisode à ce moment-là parce qu'on va avoir une discussion de 15 minutes sur des faits très intéressants dont on parlera peut-être à la fin. Parce que c'est quand même pas le sujet principal de cet épisode. On a envie de parler de croissance, on a envie de parler de marque e-commerce. On a envie que vous nous disiez un petit peu ce que vous avez fait avec We Are Jolie. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, vous présenter, nous présenter la marque et nous expliquer un peu ce que vous y faites?
Carrément. Vas-y, je t'en prie.
Donc moi, je m'appelle Prune, je suis la cofondatrice de We Are Jolie. En gros, pour le parcours rapido, j'ai fait une école de commerce et j'ai commencé, je bossais chez Chantel, qui est donc le gros groupe de lingerie français, luxe. Et en fait, je développais les produits avec les stylistes, les modélistes, etc. Et j'étais vraiment je faisais le produit sur une marque qui était pour le coup beaucoup plus niche, très luxe, mais où j'ai appris une chose, c'était, et c'est pour ça que ça vient, c'est intéressant parce que ça a quand même un rapport avec la marque, j'ai appris à faire des bons produits dans lesquels on se sentait bien, parce que pour le coup, j'étais à l'école du parfait fitting, quoi, où tu prends le temps de développer des jolies choses, quoi. Voilà.
Et moi, c'est Florie, et dans le duo, j'ai plutôt la casquette communication. Avant ça, j'étais directrice de communication d'une start-up. Ça s'appelle Vaivai, c'était de l'eau noix de coco. Et j'ai commencé aussi dans la publicité au tout début. Donc voilà, plutôt sur la strate de communication marketing.
Ok, et donc vous vous êtes retrouvés il y a 3 ans et demi.
Ouais, c'est
pour
ça.
Pour monter We Are Jolie, comment ça s'est passé?
Ouais, alors We Are Jolie, 3 ans et demi en termes de date, c'est-à-dire 2019 est notre première véritable année, mais il nous a fallu bien un an quand même pour set up le projet et lever des fonds. En amont même d'avoir créé le projet, puisqu'il s'agissait d'un projet mass market, donc qui s'adresse, on souhaitait en tout cas qu'il s'adresse à un grand nombre de femmes. Et de ce fait-là, quand tu cherches à monter une boîte avec un prix accessible qui s'adresse à un large nombre de personnes, bah ça te coûte quand même 2 fois plus cher que si tu souhaites adresser un marché niche et ou un marché plus haut de gamme.
Ok. Voilà. Donc ça, c'était la nécessité du coup de lever des fonds dès le démarrage. Ouais. En fait, vous avez levé sur des slides.
On a levé sur des slides en se disant, de toute façon, si on veut faire ce projet et pas être une énième, c'est comme ça, en fait, on commençait le pitch en disant, pourquoi payer si cher des choses aussi petites? Et en fait, en se disant, on veut lancer, non pas une énième marque de culottes à 30 euros, mais on veut lancer quelque chose qui s'adresse à on va dire 95% de la population. Donc, il faut lever des fonds.
Et vous avez eu du mal à les lever ces fonds-là au démarrage ou ça a pris direct le pitch?
Honnêtement, ça va. Enfin, ouais. On a mis 9 mois. Pour deux nanas sorties de nulle part, sans réseau, pour le coup qui n'ont pas fait HEC, pour le coup, non mais c'est non mais c'est vrai qu'on part pas forcément avec le même réseau, forcément, donc on est vraiment ce qu'on a fait pour de vrai, c'est qu'on a payé un abonnement à LinkedIn Premium. Et on a lu Les Échos et Le Parisien. On a pris la liste des 100 plus grands investisseurs en France. Et de fil en aiguille, on a adressé un mail à chacun d'entre eux. Et de fil en aiguille, ça nous a renvoyé vers d'autres réseaux de business angels, etc. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a levé nos premiers 500 000 euros.
Ok, d'accord. Et donc, à partir de là, quand on lève sur des slides, j'imagine que les premiers investissements, c'est sur le développement du produit, évidemment. Et comment vous les avez attribués, du coup, cet argent-là, par rapport à ce que vous vouliez faire?
Bah, c'est ça, c'est les lignes de prod.
Ok, et 500 000 sont partis dedans?
Alors, pas les 500 000, mais on va dire qu'une bonne partie...
70%, c'était pour de la prod, parce qu'en plus, il faut t'imaginer, t'arrives, t'es deux nanas, on avait même pas 30 ans, quoi. Tu dois convaincre des usines qui bossent pour Carrefour, pour des gros groupes comme ça. Tu dis, j'ai un projet, c'est de faire de la culotte éthique et accessible, donc tu dois me sortir des produits qui sont pas chers. Et du coup, en fait, bah, les mecs, ils demandaient des minima de quantité qui étaient énormes. Je me souviens de la première prod qu'on a reçue avec tous les cartons. Enfin, à l'époque, on faisait toutes les commandes. Nous, on avait un box et on s'est dit, putain, mais comment on va vendre ça?
Et du coup,
en faire dans le parking au moins 3. Ouais, c'était terrible,
dans
quoi.
Dans le parking au moins 3 avec l'ascenseur qui marche pas.
C'était horrible. Et au final, on a vendu 20 000 culottes la première année. Donc, ce qui était énorme en termes de volume, quoi. Mais c'était un énorme pari. Et en fait, en effet, cet argent-là, parce qu'il y a plein de gens qui nous aient lancé sans lever de fonds. Vous faites un mini POC, vous testez un peu le marché et tout. On disait, ouais, mais en fait, on n'est pas le slip français, on n'est pas des marques comme ça. On veut vendre des culottes à 8 euros. Et pour vendre des culottes à 8 euros, il nous faut du volume, quoi. Donc, ouais, je dirais 70 à 80% qui est parti sur la prod.
Ok, ouais. Donc, vous avez rajouté une grosse dimension risque.
Le site internet et un peu de pub.
Ouais. Ok, site internet, vous l'avez fait comment? Vous n'avez pas fait un Shopify classique?
Non,
vous avez
payé... c'était pas la mode.
Si, alors ça commençait à être la mode de Shopify, mais on nous avait conseillé à l'époque un enfer. Alors surtout, ne faites jamais ça. N'allez jamais sur Magento, hein, désolé.
C'est marrant.
mais un enfer. C'est-à-dire, mais n'allez jamais sur Magento. Si vous êtes un mastodon et que vous savez ce que vous faites et que vous avez des técosses en interne, go peut-être pour Magento. Ouais. Mais quand on est passé... enfin, du coup, nous, on avait fait développer sur Magento. Ça a été une catastrophe véritable parce que tout ce qu'on voulait faire, qui était hyper natif, hyper classique, etc., rien n'était possible. Il fallait tout développer, mais un enfer.
Mais comment est-ce qu'on vous a convaincu d'aller sur Magento au début?
Parce qu'on voulait faire des boutiques physiques.
Ouais.
En fait, quand on s'est lancé, et c'est là où, tu vois, ton business, il pivote tout le temps.
Ouais.
En fait, on voulait lancer le Calzedonia de la petite culotte. On s'était dit, voilà, nous, c'est la même chose. On va adresser une cible très similaire, c'est-à-dire accessible, quali, etc. Et donc, on s'était dit, OK, évidemment, on fait le web. Et puis ensuite, on ouvre des boutiques, bam, bam, bam. Et puis, au final, on s'est rendu compte que ça prenait si bien sur le web. Et puis, c'était pas la grande période du retail. Ça se portait pas très, très bien. Qu'on a pivoté. Et donc, quand on s'est lancé, on nous a dit, ben, Magento, c'est idéal quand tu veux faire et des boutiques et avoir ton site web. Parce que comme ça, t'as un stock, entre guillemets, et qui est plugué sur les deux. Et voilà. Et ça, ça a été une erreur véritable. Non, mais
ça a été une cata.
Ça a été une erreur. En fait, on pourra aussi parler de, il y a une longue liste d'erreurs. On pourrait vous parler de notre premier shooting photo aussi qui a été une catastrophe, etc. Mais voilà, ça a été une erreur parce que, et surtout, on s'en est rendu compte très vite que c'était une erreur. Et je pense que ça, c'est un vrai conseil qu'on peut donner. C'est que quand t'as un doute, t'as pas de doute.
Et absolument d'accord avec ça.
Il faut t'écouter. L'agence nous a retenu, une année de trop. En nous disant que de toute manière le problème c'était pas d'avoir je me souviens il avait pris cet exemple ou une Twingo ou une voiture de luxe et que en fait la problématique c'était juste bah, le site internet en l'état mais qu'on se fichait complètement de la monture, ce qui est complètement faux puisque le jour où on est passé de Magento à Shopify on a fait x2 donc en 24 heures et x12 en un an
et donc pas... vous êtes quasi sûr enfin c'est uniquement
alors,
le site
c'est 50% le site. 50%.
Même, je dirais encore. Ouais, même
50%
plus,
minimum, puisque ça, c'est vrai que ça a joué avec la diversification des produits aussi, on en parlera après. Mais 50% à 100% sûr, c'est le fait de passer de Magento à Shopify.
Donc là, tu te dis, je viens de passer... vous avez fait quoi, un an sur, sur Magento, un peu plus?
En vrai, on a eu les boules de, en se disant pourquoi on l'a pas fait plus tôt. Enfin, en fait, on a fait 200 000 euros la première année, ce qui est génial. Mais on s'est dit, mais on aurait pu faire 500, 800 si on s'était écouté. Et en fait, c'était aussi ce truc-là. Et ça, je pense que c'est le deuxième conseil. C'est que quand tu connais pas, t'as l'impression que ton intuition ne vaut rien par rapport à des gens qui savent et par rapport à des agences qui t'expliquent des choses. Mais en fait, le truc, c'est que nous, on sentait qu'il y avait un problème et on sentait que ce site, il était pas à la hauteur, tu vois. Et si on s'était écouté, on aurait fait, oui, je pense, au moins 50% de plus, quoi.
Ouais, je pense que de toute façon, c'est jamais une bonne solution de bosser avec une agence qui t'explique un truc où t'es vraiment nul, tu vois. Souvent, faut se faire accompagner.
En externe. Mais ouais, c'est sûr. Ouais. Mais c'est vrai que quand t'es un peu dans, bah, t'as la tête dedans, tu te rends pas compte et puis tu te dis que eux, ils savent mieux que toi.
Ouais, tu peux te faire enfumer, en fait.
Bon, voilà. Ça, c'est des choses, en tout cas, faut s'écouter.
OK. Bon, la première année était quand même pas si dégueulasse que ça. D'autant plus que celles qu'on suivit vous ont amené à un stade quand même assez intéressant. Vous avez fait 3 millions et demi de chiffre d'affaires l'année dernière.
Oui.
Ouais. Donc 3-3 un... sur le web. Ouais,
3-3 sur le web, 200 en physique.
Ouais.
J'ai envie de vous poser la question très large que je vous ai posée un petit peu avant. Mm. Et comment est-ce que vous expliquez cette croissance? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une petite liste de bullet points dont on a discuté avant, évidemment, mais le premier qui vous vient en tête là-dessus, si vous devez l'expliquer, vous pouvez en choisir qu'un seul.
Ok. On peut en choisir qu'un seul?
Bah, moi j'ai envie de dire, est-ce que c'était votre positionnement?
Je pense.
Parce que, en fait, vous m'avez dit un truc qui m'a pas mal marqué, c'est vous êtes la brasserie du coin.
Ouais,
en fait.
C'est clair.
Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus là-dessus?
Bah, c'est vrai qu'on avait cette envie avec Prune de vraiment créer une marque qui soit accessible pour toutes les femmes, à tous les niveaux. Au niveau du prix, au niveau du produit, au niveau donc des tailles évidemment du produit, et pas qu'une marque de parisienne entre guillemets et ou de fille de
pas une
des
marque
grandes
niche,
villes
quoi.
Voilà. Donc il est vrai que on avait envie d'être cette marque bonne brasserie de quartier, celle où t'as envie de venir prendre ton petit croque-monsieur salade tous les midis, celle où tu reviens au moins 2-3 fois par semaine. En l'occurrence chez nous c'est plutôt par an, mais voilà, et pas d'être en fait une énième marque en effet de lingerie extrêmement aspirationnelle, mais voilà, et que tu peux pas trop t'offrir ou que tu t'offres dans des moments de grande exception. Voilà, nous, on avait envie de rentrer dans le quotidien des femmes.
Ok. Parce que vous m'expliquez qu'en fait, mine de rien, sur votre positionnement tel que vous êtes actuellement, vous avez assez peu de concurrents qui font la même chose que vous. Vous parlez que vous dites qu'en fait, finalement, le seul concurrent qui fait à peu près pareil que vous, et encore, c'est même pas le cas, c'est Dim.
Ouais.
Qui n'est pas un concurrent.
Ouais, voilà.
C'est
plus aspirationnel.
C'est un rêve un jour de se rapprocher de ce qu'a pu faire Dim. Non, on est très, très admiratif de Dim. Et on se souhaite, en tout cas, une croissance et une pérennité. Parce qu'il y a cette logique aussi d'être de marque pérenne. Je pense qu'on n'en parle pas souvent. Mais c'est vrai que nous, cette marque, on l'adore. On aime ce qu'on fait. Et surtout, ce qui nous rend très heureuses au quotidien, c'est de voir les retours clientes. Et notamment sur Google, de voir à quel point on peut à notre toute petite échelle, donner le sourire aux femmes le matin parce qu'elles se sentent bien dans nos produits.
Ok. Si vous devez juste le résumer ce positionnement parce que c'est peut-être pas forcément clair pour tous les auditeurs.
Bien sûr.
Bah non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'une marque stylée mais pas snob, c'est hyper clair et bio et accessible. Okay. Tu vois, c'est les quatre piliers qui font qu'en fait, on dit qu'on n'a pas de concurrent direct parce que finalement, soit tu as des marques éthiques hors de prix, soit tu as des marques accessibles mais qui sont fabriquées à l'autre bout de la planète et où tu n'es pas méga fier de les acheter, soit tu as des marques de luxe. Mais en fait, ce côté vraiment mode, éthique, accessible, en étant une marque qui parle à ta cliente directe, et c'est pour ça que Dim, on les admire aussi, c'est que c'est quand même une des seules marques de lingerie qui est portée par nos mères, nos grands-mères, nos petites sœurs. Ouais. On a tous connu Dim, c'est une marque complètement transgénérationnel depuis des années, et tu te dis si t'arrives à rester aussi longtemps dans les tiroirs des femmes, c'est génial quoi. Enfin, en gros, t'as réussi un gros pari quoi.
Et pourquoi vous pensez que, parce qu'en fait moi je pense à ça, j'ai mon background en école de commerce, tu vois, où je me
demande comment
dire. Tu
sens la frustration.
T'as tes deux petits axes en mode ma différenciation, tu montres que t'es tout seul en fait dans un coin de ton
c'est
truc.
Ce qu'on a fait.
Vous avez fait ça.
Bien sûr.
Et parce qu'en fait souvent tu te rends compte de ce truc et quand tu l'écris sur un papier après dans la réalité tu te rends compte que c'est pas du tout vrai, qu'en fait t'es pas aussi bien placé que tu voudrais ou perçu.
Bah tu te rends compte surtout que le modèle évolue de ouf. C'est-à-dire que nous quand on s'est lancé, je me souviens on a plein de potes entrepreneurs. Et il nous disait, les filles, c'est pas clair, vous voulez tout dire, et du coup, vous dites rien.
Ça, c'est vrai.
Et en fait, on était là avec Florie, alors que quand même, notre background, c'est quand même Florie vient de la com, et fait ça hyper bien, et moi, je viens du produit. Donc, du coup, on se dit, sinon, on sait pas sortir une plateforme de marque, c'est quand même pas embêtant, quoi, tu vois.
Et c'est très dur, en fait, t'es toujours très bon. Enfin, ça, c'est un truc aussi intéressant. Surtout en tant que marketeur, mais je trouve que t'es toujours plus pertinent pour les autres que pour toi-même.
C'est vraiment un truc.
Et c'est pour ça que quand on a une idée, et ça, je pense que c'est aussi un truc à noter, quand on a une idée, il faut en parler à un maximum de gens. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont beaucoup dans la rétention, dans la peur de communiquer leur idée qui est évidemment révolutionnaire et que tout le monde n'a que ça à faire d'arrêter sa vie pour prendre ton idée que toi, tu as eue et de la réaliser. Donc, en fait, la réalité, c'est que plus tu parles de ton idée, plus elle va se confronter finalement à la réalité, soit ça passe, soit ça casse. Mais en tout cas, toi, ça va te permettre soit de te dire, vas-y, c'est bon, c'est le moment de me lancer, et ou quand t'es dans une plateforme de marque, justement, à force d'interroger les autres sur qu'est-ce que tu aimes, justement, dans ma marque, qu'est-ce qui fait que tu portes tel ou tel produit, c'est ça qui va t'aider à te positionner, et au final, c'est en prenant vraiment ce recul-là que tu deviens toi-même pertinente.
Comment elle a évolué, du coup, la connaissance de ce qu'attendaient vos clientes? Et du positionnement qui devait en découler là-dessus, comment est-ce que votre connaissance elle a évolué là-dessus?
Le premier truc, je pense, c'est le produit, parce que tu vois, quand on a lancé, on s'est lancé en étant jolie culotte, en ne faisant que des culottes.
Ouais.
Et en gros, on s'était dit, mais ce qui est toujours assez vrai, c'est juste que nous, le positionnement s'est resserré parce qu'à 90%, les clientes portent du coton et du confortable. Mais on s'était dit, il n'y a pas une femme qui a qu'un seul type de culotte. Donc, tu peux avoir plusieurs formes, tu peux avoir plusieurs matières, etc. Donc, étant donné qu'on ne se lance que sur ce produit-là, on ne peut pas se restreindre à faire qu'un type de produit. Et en fait, on a lancé, tu vois, de la dentelle, du tulle, du tanga, de la taille haute, etc. Et on s'est rendu compte que le best du best du best, mais quand je te dis le best, c'est 10 fois plus que le sales, quoi. On vendait de la culotte en coton basique. Et du coup, on s'est dit, OK, bon, bah, en fait, il y a un besoin sur ça, mais on vendait de la culotte en coton basique avec l'ADN de la marque qui a tout de suite été dès le départ d'être hyper coloré, avec des imprimés hyper forts, tu vois. Enfin, pour le coup, ça, c'est Flory et moi. Nous, on se régale sur ça, mais en gros, une de nos missions préférées, c'est de sortir tous les imprimés, les couleurs et tout. Et en fait, on s'est dit, il y a une attente sur ça et ça devient ton, bah, en gros, ce côté basique, mais pas ennuyeux, quoi. Donc, ouais. En fait, on est arrivé sur ça.
Basic, but not boring.
Ouais, voilà, exactement.
C'est l'idée. Même si, à une grande partie, évidemment, de nos achats, de nos clientes, elles vont acheter la culotte noire, la culotte nude. Enfin, voilà, elles vont acheter les beaux basiques qu'on a parce qu'on a, plein du nid. Mais elle va venir parce que elle a vu cet imprimé léopard, imprimé léopard, mais bref, on sait pas mal d'animaux assez sympa. Là, on va sortir une collection crocodile. On a fait des homards cet été, enfin voilà. Et elle va venir parce qu'elle a vu cette culotte trop marrante avec des homards sur un fond bleu pétard. Et puis au final, elle va peut-être acheter cette culotte là, mais elle va acheter 3 ou 4 culottes beaucoup plus basiques. Mais c'est comme ça un petit peu que on arrive à créer un ADN fort.
Ouais, c'est marrant parce qu'on voit ça particulièrement dans les campagnes de pub. Nous, c'est que parfois le produit que tu vas utiliser pour faire ta pub n'est pas celui qui va être acheté derrière.
Bien sûr,
il y en a qui sont hyper intrigants, un peu symboliques de ta marque. Derrière, en fait, ça t'ouvre tout un panier ou des gens qui vont acheter plein de choses.
Tout à fait,
complètement.
Du coup, votre évolution aujourd'hui, vous avez quand même, vous couvrez pas mal de produits. Vous avez un grand catalogue. Pourquoi vous avez pris cette direction-là plutôt que de vous spécialiser parce que vous avez été monoproduit pendant quelques temps? Vous avez changé de nom aussi?
Ouais, on a changé de nom. Bah, en fait, pourquoi? Parce que ça aurait été trop dommage de pas le faire, tu vois. C'est-à-dire que quand on a vu que donc c'est 20 000 culottes qu'on a vendues la première année, parce que pour le coup, première année, on n'est que culottes. On s'est dit, OK, ce côté, éthique, accessible, sympa, mode, il marche sur la culotte, bah, du coup, il peut marcher sur la lingerie. Qu'on savait déjà, c'est qu'on ne ferait jamais de corsetterie. Donc, corsetterie, c'est, ce que je faisais chez Gentel. C'est-à-dire vraiment ce côté, t'as des bonnets, t'as des coques, vraiment. On était sur une tendance de l'ultra confort en plus, donc on trouvait ça trop bête de se mettre à l'encontre de ça. Mais on s'est dit, OK, on va tester la brassière. Donc on lance les brassières. Pareil, on a toujours mis, ça je tiens quand même à le dire, on a toujours mis très longtemps à développer nos produits parce qu'on y met une attention toute particulière. C'est-à-dire que c'est pas qu'une marque market. Donc en gros, on a développé la brassière qu'on pensait idéale, tu vois, qui était aussi bien pour un bonnet A que pour un bonnet E. Après, on a fait des culottes menstruelles. Et en fait, on s'est dit, la cliente culotte, et c'est ce qui arrive aujourd'hui, elle serait trop contente d'avoir une brassière, une culotte menstruelle, des chaussettes, un pyjama, etc. Et on trouvait ça trop bête de faire monoproduit. Et surtout, aussi, on avait compris qu'on n'allait pas faire fortune avec des culottes à 8 euros, quoi. Tu vois, c'est qu'au bout d'un moment, il fallait élargir un peu le scope, quoi.
Ouais, donc parce qu'en fait, ça a changé quand même pas mal derrière vos économiques, enfin, simplement ce qui se passait dans les tableaux Excel de BP. Parce que même, vous m'avez raconté qu'au démarrage, d'ailleurs, vous l'avez toujours, vous avez un tarif dégressif, du coup, sur le volume. Oui. Que vous avez, et en fait, vous avez ces problématiques-là que je connaissais pas particulièrement, en fait, qui étaient sur le mass market, qui est un marché de volume, en fait.
T'as pas le choix.
T'as pas le choix. Tu peux pas, en fait, c'était ça notre problématique, c'était vraiment de se dire, OK, comment on fait pour proposer une qualité vraiment de ouf, enfin, une vraie belle qualité, parce que c'est pas non plus le coton milligrammé, quoi. C'est du vrai joli coton bio qu'on a choisi, soit il est coton rib, soit il est coton classique. Donc, c'est vraiment quand tu touches les produits, d'ailleurs, je pense que demain, il y aura un truc là-dessus, c'est que là, on a fait un pop-up très récemment, mais un pop-up pas du tout malheureusement ouvert au public. C'était un pop-up presse où nous a invité le magazine Voici. Et là, ça faisait, avec le Covid évidemment, ça faisait 2 ans et demi qu'on n'avait pas vu des vraies personnes en train de toucher nos produits. Et les filles, elles étaient hyper, hyper enjouées. Non, mais c'est hyper qualitatif. J'avais vu passer une pub où je connaissais par une copine. Mais en fait, c'est hyper quali et tout. Et en fait, j'ai dit, ah ouais, mais en fait, ça se voit pas assez sur le site internet que c'est si quali. Et c'est que quand tu reçois le produit, que tu le touches, que tu le vois. Et ça, c'est un truc, enfin, du coup, c'est intéressant. Enfin, c'est quelque chose que, voilà, dont on se rend pas, enfin, du coup, quand t'es vraiment des NVB, ça te manque aussi ce côté-là. Donc, je pense qu'il y a un moment donné, il va falloir passer ce stade-là. Et du coup, j'ai perdu ce que je te disais.
Sur le tarif dégressif à la quantité, c'est que ça c'est hyper intéressant, c'est que tu vois, personne chez nous achète un produit. C'est-à-dire que les clientes, elles n'ont aucun intérêt. La culotte est à 18 euros. Si t'en achètes 8, elle est à 9 euros. On a fait sur les brassières. En fait, on s'est toujours dit avec Flory, On veut sortir des produits qui sont OK si on les vend par deux, par trois, parce qu'on estime que vendre un produit, en fait, c'est pas le concept de marque. Et en fait, on se rend compte que globalement, en moyenne, les paniers, tu vois, c'est entre 5 et 8 produits systématiquement.
En fait, c'est soit tu marges à l'unité,
ouais,
soit tu marges sur le volume. Mais du coup, tu te rattrapes. Mmh. Quand tu marches pas sur le volume, tu marches à l'unité. Et si tu marches pas à l'unité, tu marches sur le volume.
Ouais. Mais ça, c'est le dilemme, en vrai. Tu vois, sur le papier, enfin, je reviens sur mon petit diagramme. Enfin, tout le monde veut le résoudre. Tout le monde se dit qu'il faut que je fasse un produit mass market qui plaît bien, etc. Et mais personne, enfin, c'est quand même très, très dur à résoudre ce truc-là. C'est pas une mince affaire. On en parle comme s'il y a ce trou-là dans le marché. Ouais, je vais juste aller dedans.
Mais tu sais que nous, avec Florio, au début, on se dit, putain, mais pourquoi tout le monde fait des trucs chers? Mais en fait, tu comprends. C'est que le mass market, c'est l'enfer. Enfin, en fait, les stocks, c'est hyper compliqué. D'avoir un produit quali, en effet, que tu sors pas cher en prix d'usine pour quand même t'en sortir un petit peu. Et encore, nous, on fait des marges ultra raisonnables par rapport à d'autres, tu vois. Donc, oui, en effet, tout le monde veut le faire. Mais en fait, typiquement, si tu lèves pas des fonds, enfin, nous, si on n'avait pas eu la chance d'avoir des investisseurs qui ont cru en nous au départ, on n'en serait pas là. Enfin, tu vois, les 500 000 euros de départ, sur 10 slides, avec une expérience zéro d'entrepreneuriat. Il fallait les mettre, franchement.
Nous, on y croyait dur comme fer. On était convaincus qu'on allait faire quelque chose de génial. Mais j'avoue qu'avec le recul, tu te dis, je vois les deux nénettes, elles arrivent. Moi, j'étais enceinte, en plus. Enfin, voilà, c'était genre, OK, les meufs, c'est cool, quoi. Mais du coup, je vous donne 500 000 euros. Ouais. Vous allez faire quoi, là? Donc voilà, non, il fallait y croire. Et franchement, on a eu de la chance, quoi, d'avoir, en fait, des investisseurs qui ont compris que véritablement il y avait une possibilité de faire du mass market sur de la lingerie encore aujourd'hui, et que il n'y avait pas que Etam ou Dim qui étaient capables de le faire. C'est ce qui fait qu'on est assez, entre guillemets, unique, mais sans aucune prétention, mais dans le secteur, parce que toutes les marques qui ont été créées se sont beaucoup beaucoup inspirées du site français, qui est une merveilleuse marque, mais dans le positionnement, c'est-à-dire que toutes les marques qui ont suivi un peu Guillaume Gibault ont été dans la même veine, c'est-à-dire du prix très haut, ou en tout cas relativement haut, qui permet finalement qu'à un très petit pourcentage de la population de pouvoir se procurer les produits. Donc le problème, c'est qu'il y a de la place pour une, deux, trois, quatre marques, mais après, ça devient un petit peu plus compliqué.
Et vous pensez que c'est parce que c'est dur qu'il n'y avait personne sur ce segment de marché, alors que pour le coup, c'est quand même assez... Enfin,
bah oui.
La faille, elle n'est pas cachée, quoi. Genre, c'est sur le marché.
En fait, tu payes un prix. C'est-à-dire que ça, c'est un truc, on en a déjà parlé, mais il y a un prix à payer. C'est-à-dire que si c'est pas ta cliente qui paye, c'est toi qui payes en tant qu'entrepreneur. Et qu'est-ce que tu donnes en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que tu veux, en fait? Est-ce que tu veux avoir une petite part d'un très gros gâteau demain? Ou est-ce que tu veux avoir un très gros gâteau pour toi tout seul, mais qui n'a pas beaucoup de valeur? Et ça, c'est une vraie question, que tout entrepreneur doit se poser. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ce qui compte pour toi, c'est de créer quelque chose de très beau et de le plus grand possible, et de s'adresser au plus de personnes possible? Ou est-ce que finalement tu préfères au contraire garder une forme de liberté absolue, être maître chez toi, mais peut-être te priver de beaucoup de visibilité? Et ça, c'est un vrai choix. Donc si tes clientes, elles ne payent pas, puisque enfin finalement le prix qu'on propose est très accessible, il faut bien que quelqu'un paye. Et cette personne, évidemment, c'est Prune et moi, qui au moment où on lève 500 000 euros, on se doute bien qu'on n'a pas pu valoriser la société des millions d'euros. Donc, évidemment, à ce moment-là, on lâche du capital de manière à pouvoir proposer notre projet. Mais ça, c'est dur de le faire. Parce que je pense que des personnes qui montent des entrepreneurs, on a tous de l'ego. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait normal et de très, très sain. Mais il est vrai que parfois, ça peut venir peut-être en opposition avec des objectifs business. Et le fait est que nous, notre choix avec Prune, on était très alignés sur le fait que on était OK parce que l'ambition, la vision du projet valait plus que nos parts, entre guillemets. Et donc, on était prête dès le début à céder une certaine partie de notre capital. Voilà. Et ça, je pense que tout le monde n'est pas prêt à le faire.
OK. C'est très clair. La vision est bien clarifiée pour nos auditeurs.
Merci.
Non, j'ai envie d'en faire un extrait. Ça sera le teaser du podcast, c'est sur LinkedIn.
C'est très clair.
Je vais juste continuer un petit peu sur du coup ce business model un peu de volume que vous avez, qui est en fait de la récurrence simplement. Et donc en fait, vous, votre martingale, elle est simple, c'est genre plus je sors de produits qui satisfont mon audience, plus ils vont le racheter.
Ouais.
On disait avant, vous avez le mois dernier, du coup, c'était 52% de vos achats qui étaient faits par des acheteuses récurrentes.
Carrément.
Ce qui est indécent. Depuis le début d'année.
Du bois.
Et vous disiez aussi que vous aviez foiré certaines diversifications produits.
Ouais. On s'est, un peu. Non, on n'en a pas foiré beaucoup, mais une seule, ouais.
Une bien, quoi. On s'est foiré alors que le produit est canon. D'ailleurs, ouais. Il est en solde en ce moment sur notre site.
On en a trop.
Il est vraiment pas cher. Tu mettras ça en intro. Le sport est en salle.
Ce qui est terrible, c'est qu'on s'est pas foiré sur le produit en lui-même qui est top et qui est canon. Et il a beaucoup plu, mais malheureusement, il était beaucoup trop cher. Parce que on a un cahier des charges extrêmement, extrêmement clair en interne. On ne s'autorise pas certaines choses, c'est-à-dire qu'on ne fait que des choses de très très bonne qualité. Et sur le sport, typiquement, nous avons voulu proposer la meilleure qualité de fibres de nylon recyclées, ce qui coûte extrêmement cher. C'est 30 à 40% de plus que de la fibre de bonne qualité classique. Et même en baissant nos marges au maximum, on a proposé un produit, un combo produit, puisque c'était brassière et leggings, pas beaucoup trop cher, mais à un prix en effet qui était trop cher. Donc de mémoire, je sais plus combien. Je crois qu'on était à 60
c'était,
euros.
C'était
le
plus
legging.
De 100 euros l'ensemble, voilà. Ce qui était psychologiquement, tu vois, chez We Are Jolly, en gros, c'était des prix alors beaucoup mieux, mais de Nike ou de marques vraiment un peu plus, tu vois, haut de gamme. Et en fait, notre cliente, qui est habituée à avoir un panier moyen entre 80 et 90 euros, bah en fait, tu vois, le sport, c'était trop cher.
C'était un peu trop cher. Donc voilà.
Mais franchement, c'est le seul vrai raté. Après, on a toujours eu un truc, c'est que on a toujours voulu monter une marque rentable. Donc tous les tests produits qu'on faisait, on s'autorisait une enveloppe max de X milliers d'euros, tu vois. Et on se disait, si avec ça, on prend pas trop de risques, c'est-à-dire qu'on plante pas, tu vois, toute une prod et on perd pas trop d'argent. Donc c'est le cas avec le sport. Au final, voilà, comme il est en solde, du coup ça va aller. Mais par contre non. Et au global, par contre toutes les nouvelles catégories produits, typiquement là les deux dernières, c'est le pyjama et le body. Là pour le coup, en deux semaines, c'était sold out, quoi.
Ah ouais, ça j'avoue qu'on a beaucoup de chance. On s'est pas trop trompé sur les développements produits. Alors ça aussi, parce que c'est peut-être l'un des tips aussi, c'est qu'on co-construit avec nos abonnés sur Instagram beaucoup.
On demande tout.
Qu'est-ce que vous voulez? Après, on leur fait des petits croquis. On leur demande telle ou telle forme. Vous préférez manche courte, manche longue, etc. Enfin, voilà. À chaque fois, on fait des petites enquêtes comme ça. On a la chance d'avoir une communauté qui est hyper active. Donc, en plus, bah, nous, ça nous permet vraiment d'adapter. Parfois, il y a des choses, on s'est dit, on va le faire. Bon, ben, en fait, on va pas le faire parce que c'est un délire, tu vois. Et il y a que nous, en fait, dans le truc, tu vois.
Il y a un truc où vous étiez sûr. Vous avez dit ça, je vais le foutre en story. Je vais faire un sondage. Ils vont me dire que c'est de la balle. Et ils ont dit que c'était nul.
Mais c'est la blague des équipes, hein. Tu sais que parfois, il y a deux motifs qui sont nos préférés avec Florie. Ils ne marchent pas du tout. Et alors là, elle nous dit.
C'est les deux worst sales.
On comprend pas. Et nous, c'est nos préférés.
C'est nos préférés. Ouais. Vraiment. Donc, à savoir l'imprimé marbre blanc et bleu marine.
On en était sûr.
C'est, je sais pas pourquoi, c'est des flops.
Et un autre qui est hyper graphique avec un
ressemble à Matisse.
Qu'on adore.
Qui est une inspiration Matisse magnifique.
Marche pas.
Voilà. Donc
voilà. Bon oui, après ouais. Parfois on se trompe pas, mais tu vois la blague des filles c'est ah c'est votre imprimé, mais tu vois donc maintenant en fait
il y a que vous qui le portez genre.
Non mais ce qu'on fait c'est que quand les filles nous disent non et que nous avec Florent dit si, on se regarde, on dit ouais non mais peut-être qu'on va les écouter parce que tu vois on n'est pas sûr à 100% quoi.
Non, on n'est jamais sûr et c'est pour ça qu'on demande toujours l'avis sur les réseaux sociaux quoi qu'il arrive. Donc voilà.
Ça vous pouvez le faire parce que vous avez une communauté qui est quand même assez engagée. Oui. On en parlait encore une fois avant. J'ai dit beaucoup de fois dans cet épisode. Mais vous êtes construit vraiment comme une marque média. C'est un sujet qui me passionne tout particulièrement parce qu'on veut faire un peu la même chose avec Kodak.
C'est génial.
Pour vous, ça veut dire quoi une marque média versus une marque qui partage juste du contenu sur les réseaux sociaux?
Ça s'est fait un peu naturellement. C'est ce que tu disais Prune tout à l'heure. C'est vrai qu'on est, bon, on est deux femmes, en l'occurrence, et qu'il se trouve que les équipes aussi sont des femmes. Après, on ne recrute pas du tout que des femmes, mais ça s'est fait comme ça. Tout simplement, et que du coup, on s'est rendu compte que les sujets de discussion qu'on a entre nous, ben, finalement, c'est ça qui est le plus intéressant. Parce qu'on va se parler de vrais sujets entre nanas, ça peut aller des sujets évidemment de règles, jusqu'à des sujets de maternité, en effet, de postpartum, des sujets de confort, de petits bourrelets, de petites vergetures qui dépassent, de petits machins, de petits inconforts. Et tout ça fait que on se rend compte que en partageant ces insights-là et ou en diffusant aussi des personnes qui prennent la parole sur tel ou tel sujet du body positive ou même tout ce qui est combat de femmes hein, d'une manière générale, nous c'est les sujets qui nous passionnent parce que ça nous habite au quotidien d'une manière humaine, simplement. Et c'est en étant le plus raccord, finalement, avec qui on est et ce qu'on partage avec nos équipes, que la marque a commencé à véritablement prendre de l'élan sur les réseaux. Et on s'est rendu compte que des posts où soit on va faire une blague, soit qui vont être un petit peu plus engageants, bah, vont susciter un nombre de likes bien supérieur à un post produit complètement classique.
Ah, et puis tu vois, il y avait un truc aussi, je pense, c'est que quand on a monté la marque, alors c'est, je sais que c'est un mot qui est utilisé marketingement, mais c'était hyper vrai chez nous, c'est qu'on voulait faire une marque de lingerie bienveillante. C'est-à-dire que et Florie et moi, tu vois, on a connu l'époque Princesse Tam Tam, où ta taille 3, en fait, c'est un petit 36, et du coup, tu te trouves obèse. On a été élevés, tu vois, avec le L de comment perdre 10 kills en une semaine et tout.
Attention, c'est l'été.
Et attention, c'est l'été. Genre, enfin, tu vois, toute cette truc que t'imposes aux femmes, en gros, nous, on a quasiment, enfin, moi, j'ai 33, et Florie.
36,
voilà. Mais en gros, tu vois, on a grandi là-dedans. Et en fait, cette marque média, c'était aussi de dire, alors, on se détend, on révolutionne pas, hein, les choses complètement. Mais par contre, si avec notre marque, on arrive à donner un peu confiance, en elle, à nos clientes, si on arrive à ce qu'elles se sentent méga belles quand elles se mettent dans la glace et qu'elles sont dans notre lingerie, bah en gros, on aura réussi quand même un pari. Et du coup, on a essayé aussi de transmettre ça et dans les produits et dans la com. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que, en fait, on a monté cette marque pour nous et pour nos copines, quoi. Enfin, tu vois, en disant, bah vas-y, en fait, on arrête d'être des marques hyper culpabilisantes, on arrête de, en fait, on habille le corps des femmes parce que tu vois, on le dit souvent en phrase, tu vois, assez claire, mais en gros, c'est les produits qui s'adaptent à votre corps et pas l'inverse, quoi. Et je pense que dans ce côté marque média, de faire passer un message...
Et la cohérence avec le produit in
ouais,
fine.
Voilà, c'est que... qu'en plus, on dit ça, mais que le produit suit. C'est-à-dire que c'est génial de faire ça. C'est un peu comme le greenwashing, où tu peux faire du body positivisme, mais en fait, ton produit... Bah, en fait, en magasin, t'as que du 32, et une nana qui fait un 46, elle va devoir faire ses fonds de trucs pour trouver, tu vois, un produit dans la taille. Et je pense que du coup, ça a vachement joué aussi sur le côté... Nous, nos clientes, elles nous disent un truc, et je pense que, tu vois, on a un groupe sur Slack qui s'appelle Les Pépites, où les nanas du service client, tu vois, elles nous mettent tous les petits messages et tout qu'on reçoit des clientes. Et en vrai, mais c'est juste un bonheur de dire ça, tu vois, quand t'as une nana qui te dit, j'étais pas bien dans ma peau, je venais d'accoucher, ou j'avais pris 15 kilos, et ben, en fait, j'ai découvert votre lingerie, je ne mets plus que ça, ou j'allaitais, ou j'ai eu un cancer du sein, ou enfin, tu vois, tous ces trucs de meuf. En fait, tu te dis, putain, mais en fait, j'ai presque, c'est bon, je pourrais m'arrêter là, j'ai gagné, tu vois, j'ai gagné un truc avec ma marque et j'ai créé quelque chose. Tu vois, je veux pas dire que c'est une entreprise à mission parce qu'on se détend, on sauve pas la planète. Mais par contre, pour les femmes, je suis sûre et certaine que, bah, on leur donne un peu plus confiance en elles. Et franchement, bah, c'est juste trop cool, quoi. Tu vois?
Mais complètement.
Ouais. Parce que c'est intéressant parce qu'en fait, ma question était vraiment sur, qu'elle t'a répondu. Enfin, vous avez répondu totalement sur la différence entre une marque qui a un compte Instagram et une marque média.
Ouais.
Moi, ce que je vois vraiment dans le facteur commun entre toutes les marques qui arrivent vraiment à faire vraiment des choses spécifiques, c'est celles qui ont réussi à faire coller leur marque avec un, pas un combat de société, mais disons un peu une, des idées.
Une raison d'être.
Qui la dépasse.
Quoi.
Mais une vraie raison d'être, pas une raison d'être au sens que tu fous dans la plateforme de marque, tu vois. En mode, je suis en train de défendre une idée. Tu vois, par exemple, je pensais beaucoup à la marque Tajine Banane. Je sais pas si vous connaissez.
Carrément.
Exemple parfait de ce là. Et vous avez été en fait les premières, où on en parlait juste avant, du coup, à parler de body positivisme.
Ben oui, on a été bizarrement. Alors, c'était pas volontaire. Hein. Enfin, déjà, ça s'appelait pas du body positive.
Ça n'avait pas de nom.
Ça n'avait pas de nom. Et nous, pour nous, ça s'appelait du bon sens et pas avoir de sous, quoi. Enfin, dans l'idée, on avait des copines sympas et on s'est dit, bah voilà, on prend nos copines, elles sont super, elles sont jolies comme tout. Et puis on les shoot, quoi. On les shoot et c'est cool. On faisait des culottes shooting. On offrait un verre de champagne et une culotte à toutes les filles qui voulaient bien venir au bureau. Et comme ça, on pouvait shooter leurs fesses, mais juste sans le visage. Mais et puis avoir plein de photos, quoi, différentes, de fesses différentes. Enfin, nous, on trouvait ça super cool. Et en fait, on a commencé donc à diffuser les photos. C'était vraiment tout au début. On n'était pas encore, enfin, parce qu'on a lancé la marque véritablement sur une année complète en 2019, mais en réalité, c'est fin 2018 que ça sort. Et là, on poste nos trucs, on est hyper contente, on fait une lettre ouverte aux fesses des femmes, on est hyper fiers de nous. On se dit mais c'est génial, ça nous inspire de ouf de voir toutes ces copines qui osent se mettre en culotte et tout, qui s'assument de ouf. Certaines qui ont eu des gosses, certaines non. Elles disent, moi, j'ai des vergetures, mais vous êtes sûr, vous voulez me shooter, je suis moche. On dit, mais non, t'es trop belle et tout. Et c'était génial. C'était un moment magique et on le partage sur les réseaux. Et là, on reçoit. Mais honnêtement, on s'y attendait pas du tout. Parce qu'on était hyper sûrs de nous dans le côté positif de l'histoire.
On trouvait ça trop cool.
On trouvait ça génial. Bon. Déjà, on reçoit quelques appels de certains de nos investisseurs hommes. qui nous disent « Les filles, vous êtes bien sûres de ce que vous avez posté. » Même moi, mon mec me dit « Bon, c'est... »
Bah, on nous dit « C'est pas beau, quoi. »
Hein? C'est pas beau, quoi. Ce que vous postez, c'est pas beau, c'est moche, quoi. Mm. Et là, on dit non, mais en fait, on trouve ça génial, donc rien à foutre, on y va. Et on va jusqu'à cette lettre ouverte aux fesses des femmes. En fait, on l'a fait en février. Je m'en souviens encore, puisque c'était pour la Saint-Valentin, justement, pour dire que ben voilà, c'était un peu has-been, finalement, qu'il valait mieux célébrer soi-même que faire un truc avec ton cum. Bon, bref, qu'importe. Et là, on reçoit des messages sur Instagram, sur les réseaux, où on postait au fur et à mesure les fesses, quoi, de nanas, mais hyper, hyper énervées, qui nous disent que on encourage l'obésité, que c'est honteux de faire ça. Sachant que on poste des fesses de toutes les femmes, il y a des fesses en 38, en 40, c'est des fesses de femmes. En fait, c'est des fesses normales.
C'est juste sans retouche.
Enfin, on n'a pas retouché, etc. Et qu'elles nous disent que voilà, c'est honteux, qu'on devrait avoir honte de ce qu'on fait. Enfin, on se prend une déferlante, mais de commentaires hyper négatifs en disant c'est très mal de faire ce que vous faites, etc. C'est horrible, ça fait vomir. Enfin, des commentaires horribles. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que à côté de ça, il y a des femmes qui ont répondu. C'est-à-dire que nous, on se demandait comment on va gérer le truc. Mmh. Et là, ce sont des nanas qui suivaient le compte, qui se mettent à répondre aux autres. Et ça prend une espèce d'ampleur à notre petite ampleur à l'époque. Hein. Je pense qu'à l'époque, si on a 15 000 followers, c'est le bout du monde. Hein, d'accord. Donc, on est vraiment une toute petite marque. Et donc, voilà. Et elles se répondent entre elles. Et finalement, on prend une crédibilité sur ce truc-là sans l'avoir voulu. Et là arrivent certaines influenceuses qui commencent à peine à parler de cette mouvance américaine qui s'appelle le body positive. Mais c'est vraiment le début. Et voilà, et ça prend comme ça, et donc du coup on nous colle une étiquette, c'est une marque de body positive, mais voilà, enfin c'était pas, il s'est trouvé que c'était ce qu'on faisait parce que c'était du bon sens et qu'on trouvait ça hyper important de montrer la beauté de toutes les femmes dans la diversité absolue. Et attention, on parle pas que des bourrelets, on parle aussi de l'âge des femmes, on parle
de
aussi
la couleur de peau,
de l'origine sociale, enfin de tout en fait. Et donc voilà.
Nous on avait comme ça que ça s'est lancé. On avait l'exemple de la pub Dove. Tu vois,
ouais,
tu te souviens de cette pub Dove?
C'était notre inspiration.
Genre les 15 nanas de 20 à 70 ans, pareil, du 32 au 48. Et on se disait, putain, c'est génial ce qu'ils ont fait, mais c'est Dove. Donc en gros, Dove peut se le permettre, mais toi,
c'était
petite
Dove,
marque...
C'était Dove, mais il y a très longtemps. C'était Dove il y a 15 ans, tu vois.
Ouais.
C'est une pub qu'ils ont sortie, je sais pas, il y a entre 10 et 15 ans.
C'était génial.
Mais qui était génial. En fait, genre, il y a deux pubs dont moi je me souviens plus jeune, c'est Les Bébés Evian et Dove. Mm. Tu vois, c'est les deux pubs qui m'ont le plus marqué. Dove, c'était une pub, en tout cas, en affichage. Et Les Bébés Evian, c'est la pub. Mais, enfin, c'est le film. Mais voilà. Et on avait été hyper marqués par cette campagne-là. Et nous-mêmes, on s'est inspiré, évidemment, de ça. Quand on a lancé la marque, en se disant, finalement, c'est fou. Ils ont fait une campagne et ils se sont un peu arrêtés. Alors que c'est ça la vie. Enfin, et voilà. Donc, on a eu beaucoup de chance. Enfin, ça s'est bien fait. Et puis après, toutes les autres marques se sont mises à le faire. Malheureusement pas tout le temps avec une réalité produit derrière, et ça c'est assez humiliant pour les femmes, et c'est pas chouette de faire des choses comme ça, parce que faut pas mentir. Voilà, non mais c'est vrai, je le pense, parce que c'est humiliant quand tu dis que tu peux acheter tel ou tel produit et que tu fais un double XL, bon, et que tu vas chez la marque et que tu te rends compte que ça n'a juste jamais été produit et c'était juste pour le shoot. Bon, c'est pas sympathique, mais beaucoup de marques ont joué le jeu, et franchement c'est génial. Enfin, nous on est hyper contentes d'avoir participé et d'avoir été pionnière sur ces sujets-là. Et franchement, c'est génial que le monde change, et pour une fois dans le bon sens.
Ouais,
et puis que ça devienne une norme, quoi.
Voilà,
c'est maintenant ça soit un sujet.
Ouais. C'est plus un truc de différenciation.
En gros, maintenant, même tu vois des nanas qu'en 34, que blanches, tu te dis, il y a un problème, tu vois.
Enfin, je veux dire,
nous, on n'en parle plus, tu vois.
Ouais.
Et c'est un truc dont on ne parle pas, on ne dit pas on est une marque inclusive.
Ouais, c'est devenu...
Non, c'est normal.
C'est plus différenciant, ouais.
Voilà. Mais et encore, tu vois, genre là, on est en train de bosser sur une brassière qui monte en taille, sur même à élargir la gamme de taille, etc. Parce qu'on ne va que jusqu'au 48-50, ce qui est déjà énormissime pour une jeune marque, tu vois. Mais en gros, on voudrait pousser le truc et vraiment se dire, quand on a les moyens, on adresse vraiment toutes les femmes et toutes les morphos, sans aucune
au-delà du 50.
Sans aucune mise de côté, quoi.
Ouais. Exactement.
Donc c'est ça un petit peu le... C'est marrant parce que c'est venu de façon indirecte, vous le racontez. Enfin, c'est ça du coup le combat sous-jacent et votre compte Instagram, mais de manière générale à la raison d'être de la marque. Quoi.
Mais bien sûr.
Ouais, bien sûr. Ouais, en fait c'est marrant parce que vous ne l'aviez pas écrit ça pour le coup sur un papier avant. Quoi.
Non, jamais.
Non, mais je crois que ça nous ressemble vachement.
Ouais, enfin, Flori
et moi, on s'est associés, on ne se connaissait pas. Enfin, c'est quand même la plus belle histoire d'association ever. Aujourd'hui, je suis la marraine de sa fille, tu vois, mais quand on s'est associés, moi, on a été présenté par ma meilleure amie d'enfance, qui était la première salariée de Flori. On nous a présenté. Bon, il se trouve qu'on s'est associé parce qu'il y a eu un vrai coup de cœur, en tout cas, et match pro, tu vois, en se disant, bah vas-y, lançons-nous là-dedans. Et en fait, je pense que cette marque, c'est pour ça qu'on ne l'a pas écrit au début, mais finalement, elle nous ressemble beaucoup dans ce côté. En fait, on avait envie de... Je crois qu'on avait envie de créer un truc. On n'est pas... on en parlait tout à l'heure, on n'endorse pas la marque, on nous voit pas tous les jours sur le compte Insta, etc. Par contre, là où on a envie de l'amener, les décisions qu'on a prises, tu vois, alors que nos investisseurs ou même des clientes ou des gens qui suivaient nous ont dit « Putain, les filles, franchement, n'allez pas dans ça » ou « N'allez pas dans ça » ou... Enfin, tu vois, et quand on s'est fait confiance, c'est ce qui fait que l'association est géniale, c'est que je pense que du coup, on voulait amener la marque là. Et qu'aujourd'hui, bah, maintenant, ça fait 3 ans et c'est peut-être un peu plus clair qu'avant. Mais je pense que c'est la plus grande, enfin, tu vois ce que je disais tout à l'heure sur les commentaires des clientes. Je pense que la plus grande force, c'est d'avoir amené cette marque-là parce que toutes les deux, on avait envie de créer une marque qui finalement nous ressemblait avec de la bienveillance pour contrer les 25 années d'avant de marques auxquelles nous, on avait eu affaire, tu vois.
OK. Ouais. Bon, je vais faire une transition vers le truc dont on parlait juste avant que l'épisode commence, qui est sur les 25 années d'avant, qui visiblement n'avait pas tant changé que ça avec les personnes avec lesquelles vous avez discuté.
Ouais.
Et vous avez fait un petit passage à qui va être mon associé.
Style.
Et personne ne l'a vu.
Personne ne l'a vu. Personne ne le verra jamais.
Non.
Pourquoi ?
Parce que...
Vous avez été méchant.
Des très méchants.
Non, sérieusement, c'est quand même assez scandaleux.
Nous, on a eu la sensation...
Ouais. On a été humiliés.
Ouais, vraiment. On a été humiliés par des hommes. Et non, mais vraiment, ça a été un moment.
Franchement, ça a été un des pires moments de la boîte, alors qu'on on s'est pris des bâches. Enfin, on a levé des fonds, on a pitché, on a fait des pitchs à la Johnny Hallyday, genre où t'étais pendant 5 minutes sur scène avec ton micro, c'est devant l'amphi de que de mecs en costard de 60 ans. On te dit, vas-y, c'est à toi. Et là, t'as le micro et tu dis, ok, machin. Enfin, tu vois, ces trucs terribles, quoi. Là, honnêtement, je pense que ça a été un des pires. D'abord parce qu'on s'y attendait pas. On allait hyper en bon enfant.
Et vous étiez déjà aussi une grosse marque. Enfin, vous aviez déjà.
Ouais. Enfin bon, on était.
Enfin, une grosse marque.
On avait 70 000 followers. Je m'en souviens parce que c'est Marc Simoncini qui le signale au moment où on rentre sur le plateau.
Mais c'était l'année dernière. Vous faisiez déjà. Vous étiez dans l'année où vous avez fait
3 millions. Mars 2021.
Où on va faire les 3 millions et demi. Ouais. On était dans cette année-là, donc on était sur une trend magnifique et voilà, et c'était parfait. On était hyper ravis d'être là, hyper enjouée, heureuse comme tout. Enfin, franchement, je crois que plus heureuse que nous ce jour-là. En plus, Prune avait le Covid.
Ouais, elle a été négative deux heures avant.
Elle a été négative deux heures avant. Je devais pitcher toute seule. Finalement, il y a Prune qui arrive. C'était incroyable. Enfin, vraiment, on était tellement, tellement contentes. Et puis voilà. Et puis après, c'est la douche froide où on s'est fait attaquer sur.
Nous, voilà. En fait, plus que sur la marque, tu vois, tu nous disais tout à l'heure, vous en avez pas parlé et tout, mais du coup, on va peut-être y réfléchir et puis on en parle là. Mais tu vois, sur le fait d'être deux nanas
blondes,
où on nous a dit ces punchlines terribles, où je pense que vraiment, enfin, en 3 ans de pitch, on les a jamais entendues. Donc, à laquelle des deux blondes il faut parler pour avoir des chiffres, mais je comprends pas, vous faites une marque colorée, mais pourquoi vous êtes habillée en noir? Et tu vois, en fait, c'est horrible, c'est que tu te sens tellement con, tu te sens tellement humilié que tu te dis, bon, en fait, tu n'as même pas de réponse adéquate. C'est-à-dire qu'en plus, et c'était notre crainte avec Flori, c'était de se dire, mais en plus, on va paraître soit sur la défensive, parce que tu te fais agresser de toutes parts. En plus, il se trouve que techniquement, le son sur le plateau, c'est de la merde. Donc en plus, toi, t'es là comme une débile là sur tes marques du plateau télé, tu vois, regarder les 10 000 caméras, et t'as on dirait The Voice, quoi. T'as les 10 sièges, putain, en face de toi. Donc, tu ne dois pas bouger, t'es comme ça et tout. On n'entendait que dalle, parce que du coup, nous, on n'avait pas de retour. Enfin, bon, voilà. Donc, en plus, t'es là à essayer d'écouter ce qu'ils disent, mais en fait, voilà. Et du coup, tu parais hyper sur la défensive. Genre, à un moment, ils nous ont dit, non, mais c'est bon, nous agressez pas. Bah, en fait, tu es en train de dire des horreurs, tu vois. Il y a un moment, en fait, tu te défends à minima. Et on est sorti de ce truc et on s'est dit, bon, après s'être pris les 5 noms en nous expliquant gentiment que bon, bah, voilà, ils ne croyaient pas au projet. Tu sors de là et tu te dis, en fait, moi, c'est ce que j'ai dit et c'est ce qu'on a dit aux gens de la prod. On a dit, vous avez de la chance que on avait 3 ans de boîte, qu'on a confiance en nous et que le projet, on n'a pas besoin de vous pour valider. Mais par contre, on est deux jeunes entrepreneurs.
Tu brises quelqu'un, ouais.
Mais en fait, ça te défonce la gueule. C'est-à-dire que vraiment, désolé, on parle pas très bien, mais en gros, ça t'attriste parce que, en gros, tu te dis, mais en fait, mon projet ne vaut rien. Tu vois? Et tu te dis, c'est cinq mecs qui ont été entrepreneurs, qui ont levé des fonds.
Il y avait une femme, quand même.
Ouais, il y avait une nana, la meuf de Paul Enjo, qui, bon, elle, a dit oui, je serais OK pour faire une collab. Bon, qui a pas été méchante, mais en tout cas, qui n'a pas assez cru au projet pour nous défendre, tu vois.
Je crois qu'elle était géniale aussi. Hein.
Ouais, je pense.
Moi, d'ailleurs, elle l'a dit.
Je pense qu'on s'est repassé toutes les deux la scène, plusieurs fois dans nos têtes, parce que je pense qu'on en a pas dormi pendant quelques jours, quand même, de cette humiliation. Et voilà. Et je pense qu'elle était elle-même mal à l'aise. Enfin, avec le recul, je me dis que quand même, c'est des choses, il faut quand même être un petit peu endurci parce que même quand tout va bien et que, on a plus ou moins, on est bien dans ses baskets. Il y a quand même un sujet en tant que femme. Je sais pas pourquoi, ou alors c'était notre valorisation. On a dû paraître trop prétentieuse, ou peut-être trop sûre de nous, ou peut-être je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Honnêtement, je sais pas. Pourtant, on n'est pas du tout comme ça. Mais en tout cas, ils nous ont, ils se sont dit ces deux-là, on va
se les faire quoi. T'avais vraiment l'impression d'être, tu vois, sur cette scène là et. En plus, c'est hyper impressionnant, ils le savent. Enfin, tu vois, tu sais que tu vas passer à la télé sur M6, t'as des millions de personnes qui vont te voir. Et tu vois, nous, on en était malades. Et justement, et donc, ils ont choisi de pas nous diffuser. Et c'est là la conclusion du truc. Donc, quand la respo de la prod, pour le coup, la prod avait été adorable, tu vois. Mais même la prod, quand on est sortis, ils nous ont dit, ils vous ont attaqué sur des trucs. Ils nous ont demandé des chiffres qu'ils ne demandent jamais. Genre le résultat net mensuel, comme si on faisait une clôture mensuelle et on leur a dit, et c'est là où, tu vois, on disait, non, mais...
Mais ils étaient tellement sur deux qu'on savait plus quoi répondre. C'est quoi votre résultat net mensuel?
Vous êtes fait lyncher, en fait.
On clôture, on n'est pas une mode du cac, là. On clôture pas. En fait, ce qu'on aurait dû répondre, c'est on clôture pas au mois. Ouais. Mais on dit, ils nous regardent tous comme si on devait clôturer au mois.
En fait, t'as l'impression d'être une débile.
Mais
tu vois
l'impression.
Mais vraiment.
Ça a été, ouais. Franchement, ça a été un beau lynchage. Et ce qui était, bon, après, touchant, c'est que certaines personnes de la prod sont quand même venues nous voir à côté pour nous dire
la prod, ils ont
on a rarement vu comme ça et on est désolé ça fait partie des mauvais moments depuis qu'on a monté la boîte, ça fait partie vraiment du top 3 des plus mauvais moments
de ouf. Et puis tu te dis t'es en 2021, tout le monde parle de, tu vois, du féminisme, de machin, de trucs. T'es face à quand même cinq personnes extrêmement connues. Enfin, on les connaît tous, tu vois.
T'es sur un plateau télé en plus, tu vois.
Un plateau télé et tu te dis, putain, t'es deux meufs. Et là, en fait, tu te fais parler comme si, mais t'étais, on avait l'impression d'être 25 ans en arrière, quoi, tu vois. Et du coup, tu te dis, franchement, on est tous là à dire, ouais, l'entrepreneuriat au féminin, etc., c'est génial et tout, tu vois. Mais en fait, accrochez-vous, quoi. Enfin, parce que clairement, et surtout, moi, c'est ce qu'on avait dit à la fille de la prod quand elle nous appelait en disant « Vous n'allez pas être diffusée », ce qui a été finalement un soulagement énorme après 6 mois de stress. Ou c'est ce que je te disais, moi, j'avais dit à Florine, mais je veux même pas voir. Enfin, je veux dire, vraiment, ça va être terrible. Et la nana, je lui dis « Comment, en 2022, vous pouvez mettre un jury si sexiste, si peu ouvert d'esprit et finalement si peu visionnaire ?» Parce que tu vois, notamment ce mec qui nous avait dit « Vous n'êtes pas influenceuse, votre marque ne marchera jamais. » Enfin, tu te dis « du coup... » Le principe de l'émission est génial, mais par contre, adapter les jurys au projet, parce que du coup, nous, on peut pas se faire lyncher comme ça gratuitement. Et la nana de la prod avait fini par dire, ce n'était pas montrable, quoi. Donc, on s'est pas fait un film, tu vois, on s'est fait lyncher gratos. Et heureusement qu'on était deux, et heureusement qu'on avait confiance en nous, et tu vois que ça nous a pas, mais ça a été un vrai, vrai coup quand même dans la tête, quoi. Voilà.
Wow, elle est chaude, hein, cette expérience, parce qu'en fait on a un peu de mal à y croire quand même. Moi, je me dis. En public comme ça, tu vois, c'est des gens qui avaient même pas honte en fait de dire les trucs qu'ils ont dit.
Non, pas du tout. Je pense qu'ils avaient pas honte.
Même publiquement.
Ça les fait marrer, quoi. Tu vois, je pense qu'il y a un côté, vas-y, fais le show. Sauf que déjà on n'est pas aux States, quoi. Tu vois, c'est très américain comme principe, quoi.
Ouais, et puis ils essayent de te faire pleurer, c'est horrible.
Ouais, c'est horrible.
Quand tu sors du plateau, et peut-être on va finir là-dessus, mais on te saute dessus et on dit. Alors, comment ça va là? C'est dur, hein? C'est dur. Dites-nous que c'est dur. Alors, du coup, en fait, ils essayent de nous faire pleurer. C'est horrible. Et on a notre copine, pour le coup, de Puissante, qui a monté une boîte qui s'appelle Puissante.
Marie,
qui est géniale. Voilà. Et elle aussi, ils ont été assez durs avec elle. Mais ils étaient un binôme homme-femme, donc c'était un petit peu différent. Mais ils ont été quand même très, très durs. Et elle, la nana de la prod, elle se l'est faite, quoi. En sortant, elle y a mis les caméras dans la tête, etc. Et elle, elle était encore en train de trembler parce qu'elle aussi, ça s'était passé, enfin voilà, bizarrement. Et voilà, et ils l'ont fait pleurer. Ils l'ont dit, ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Ça, ça plaît beaucoup. Ouais. Ça plaît beaucoup.
Voilà. Alors qu'elle est vraiment adorable,
et,
Marie.
Et tu vois, t'as le zoom sur sa tête où elle est en pleurs, tu vois, où ils se disent, je suis trop content.
Elle, et elle, elle est sortie là, elle pleurait encore plus en disant, mais en plus j'ai pleuré, j'ai craqué, je m'en veux, etc. Et nous, j'avoue que parce qu'on était toutes les deux, genre on a tenu, enfin on se tenait la main, je me souviens.
Heureusement qu'on était
deux. Et qu'on a fini par lui dire, mais maintenant ça suffit. Enfin, arrête de dire qu'on est déçus, on n'est pas déçus. On est, voilà, on va continuer notre route. On a juste l'impression de pas être, d'avoir, de pas avoir été comprise et que en effet, on est, il y a un choc des générations. C'est-à-dire que ils ont pas compris notre projet, mais voilà. Donc voilà, pour la petite expérience sympathique, bon, télévision.
Bon, ça vous a
pas empêché de poursuivre la croissance sur les chapeaux de roue.
Non.
Donc vous avez bouclé l'année dernière, on l'a dit plusieurs fois, à 3,5 millions.
Oui,
vous m'avez dit que votre objectif, c'était d'atteindre 10 millions sous 2 ans.
Oui, on
espère.
C'était ça ? C'est ce qu'on souhaite.
Ouais. C'est ce qu'on aimerait atteindre avec, là, tout ce qu'on est en train de mettre en place. L'idée, c'est de un peu se... Pas plusieurs trucs. D'abord, un peu se détacher du paid, tu vois, que réseaux sociaux, acquisition... Parce que en ce moment c'est très compliqué et du coup on a envie d'aller vers une croissance un peu plus organique, tu vois. Donc on est en train de mettre en place plein de choses et l'idée c'est que nous notre métier c'est le web, donc on va tout faire pour continuer à scaler sur le web, mais aussi l'idée c'est de se diversifier quand même à minima, d'aller tenter la marketplace, d'aller tenter du wholesale. On a fait un peu de monoprix, là on rentre chez Manor, enfin tu vois, d'aller un peu tester tout ça. Mais l'idée, c'est d'aller faire 10, 15 millions en France, parce qu'on pense que le marché est déjà énorme et que, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus de 3 milliards, donc on a de quoi faire. Et après, d'aller tenter l'étranger. Voilà.
Okay.
Mais voilà comment on voit la croissance. Et avec toujours, et ça, c'est ce qu'on disait, c'est toujours en essayant d'être rentable à maxima. Voilà.
Okay. Parce que le but, c'est de ne pas relever.
Oui, bah si
on peut s'éviter quoi.
Bah, si on peut réussir à faire tout ça, c'est merveilleux. Et puis s'il faut relever, bah on relèvera. Enfin, c'est toujours pareil. Mais si on réussit bien, honnêtement, l'un des objectifs, ça pourrait d'être arrivé à atteindre tous ces objectifs sans avoir besoin de relever.
Mmh. Ok.
Ça c'est une vraie réussite.
Ouais. Non, ça serait une belle réussite hein, parce que de toute façon, quand t'attends 10 millions en DNVB, du coup, ce serait majorité online pour vous.
Ouais.
Je sais pas dans vos plans sur les 10 millions combien.
Online, bien sûr.
T'es quand même dans une catégorie où t'as pas grand monde. Honnêtement, en France, t'as pas des milliards de marques qui font 10 millions online. Tu vois, t'en as. Pas beaucoup.
Ouais.
Donc, ça serait une belle réussite.
Ouais.
Bon, on arrive au terme de ce podcast. Je vous interroge sur tous les sujets dont je voulais vous parler. Je vous posais la question de clôture de cet épisode. Je me rends compte que je vous avais pas du tout préparé à ça avant.
C'est pas grave.
Mais je pense que on aura le temps de réfléchir. De toute façon, on peut couper. C'est ça, je vous pleurais.
T'es déçu.
Y a-t-il une autre marque e-commerce dont vous admirez les stratégies de croissance?
Oh que oui,
il y en a plein.
On est fan. Je te citerai comme ça tout de suite. Je dirais June, qui a pour moi, en tout cas, révolutionné plein de trucs. Enfin, du produit pour le coup. À la manière de consommer. Enfin, moi, je suis maman d'une petite fille qui a 2 ans et d'un petit garçon de 6 ans. Et pour Titouan, j'avais pas accès à ça. Ça existait pas. Et pour Juliette, c'est un rêve, quoi. Enfin, genre, j'ai ces magnifiques couches qui m'arrivent tous les mois. J'ai pas besoin de les porter alors que ça prend une place de fou. Elles sont bio, elles sont, voilà. Et ça, c'est un modèle e-commerce pour moi qui est très inspirant. Elle a créé une communauté aussi à côté June Mama, à côté de June. Qui commence mais qui a l'air de très bien fonctionner et je trouve que là aussi on est sur une marque à mission qui a véritablement changé une façon de consommer hein, une certaine catégorie de produits. Enfin, pour moi je pense à elle direct. Après il y a plein d'autres marques hein, je pourrais en citer plein d'autres.
Ouais, moi j'étais en train de réfléchir pendant que Florie parlait, mais moi j'hésitais entre deux, mais je crois que je dirais Typology. Ou Typology d'ailleurs, je sais pas comment on dit, mais ça dépend. Mais sur le côté, bon déjà, j'adore, on le connaît pas, mais Ning Li, on écoute des podcasts de lui et tout. Je trouve que le mec
C'est vrai qu'il est pas très visible.
Non, il est pas visible. Alors que le type a débarqué en France, il s'est fait tout seul.
C'est brutal.
Le mec a fait Made. Après, mon Typology, c'est un succès plein. Et je trouve que en fait, tu vois, il est arrivé. Nous, je me souviens quand il démarrait, on démarrait aussi, tu vois, et donc on regardait ça. Il a fait la cosméto hyper basique, hyper simple, dans un prix ultra accessible, qui est quand même rare en cosméto. Et surtout, il arrive à sortir des produits qui sont tous des best-sellers et la qualité est vraiment au rendez-vous, tu vois. Donc, je trouve qu'ils sont hyper bons sur ça. Et je ne sais plus qui la dernière fois nous les citait en termes de e-commerçants qui surperfent toutes les années. Et je crois que vraiment, voilà. Et pour l'entrepreneur qui l'est, parce que je pense que, enfin, on aimerait trop le rencontrer. Voilà.
C'est dans la caméra, juste ici.
OK.
Merci beaucoup d'avoir passé cette petite heure avec moi, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir été sous pression, même si c'est pas grand-chose par rapport à qui va être mon associé, évidemment.
Il n'y a pas les sièges.
Voilà. C'est quand même beaucoup plus sympa. Hein. J'allais dire.
Donc, je vous remercie beaucoup. On va s'arrêter là pour cet épisode. On va dire au revoir à nos auditeurs, leur faire plein de bisous, leur donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Brut e-commerce.
Ah, c'est là.
Ciao.
Là, je regarde la mauvaise caméra.
C'est là, c'est pas là en face. Salut à tous.
Okay. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.